RMC.
On va pas prendre tout le football français sur le dos.
Putain, non, non.
Et chaque fois, il y a une petite phrase. Assassine. C'est toujours assassin, assassin, assassin.
Si j'ai un petit mot à dire à Rosy, qui marque des buts et qui se la ferme un peu sur le banc. Je pensais que les saules pleureurs, c'était au bord de la rivière. Il y en a aussi dans les stades.
Arrêtez de se prendre pour Calimero, ça suffit, ok? Allez, ciao, bonne soirée.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, on est là, bien sûr, Ludovic Obraniak, Jérôme Roten, Luc Daillon avec nous ce soir. Et on accueille un Afterien historique qui est avec nous au moins à distance depuis des années maintenant, Julien Met. Julien, bonsoir.
Bonsoir Gilbert.
T'es déjà venu plusieurs fois nous parler de formation. Parce que t'as bossé à Libourne à l'époque.
Ouais, à Libourne à l'époque Ligue 2, ouais. Ligue 2 nationale avec Didier Tolo entre autres.
Exactement. Et là, alors truc incroyable, t'es devenu sélectionneur de Djibouti.
Ouais, ouais. D'ailleurs, je suis en retard parce que je suis arrivé en vélo de Djibouti, c'était pas...
Bon, tu vas nous raconter ouais, comment on devient sélectionneur de Djibouti en partant de Libourne Saint-Seurin. Parce que c'est quand même assez incroyable. Donc ce sera dans quelques minutes, puis tu participes au débat avec nous, bien sûr.
Bien sûr.
Luc, on était sur Nice, là.
Oui.
Quand t'entends que la première fortune britannique s'intéresse à un club comme Nice, toi, ton premier réflexe de connaisseur des dossiers de foot français, c'est quoi? C'est de dire
À cause de la promenade des Anglais. C'est tellement évident. Je vois pas pourquoi tout le monde cherche des raisons. Voilà, les Britanniques adorent la Côte d'Azur. Pour eux, c'est le nec plus ultra. Donc là, il y a le club de Nice qui est là. Il va souvent apparemment là-bas. Donc on lui a dit, à mon avis, on lui a soufflé dans l'oreille que c'était à faire. Je pense que Jean-Pierre Ribert et Fournier sont derrière ça.
Ils ont bien expliqué que ça pouvait être rentable.
Voilà, oui. Voilà, comme ils avaient expliqué aux autres aussi
mais
que ça pouvait
ça
être rentable.
Été pour eux, d'ailleurs.
Non, mais ça a été pour eux, mais ils avaient expliqué aux autres aussi que ça pouvait être rentable. Et les autres, à un moment donné, ils ont cherché la rentabilité. Donc c'est là où les problèmes ont commencé. Donc tant mieux, c'est des très bons vendeurs. Et puis voilà, donc maintenant, oui, effectivement, comme on a vu arriver les Qataris, c'est un multimilliardaire arrive et fait flamber le championnat, pourquoi pas, ça va continuer à entretenir
c'est bon signe pour
le championnat français. Parce que
redynamiser un club comme bien Nice sûr, alors attention sûr. Ils sont pas à la ramasse non plus hein, ils
non mais c'est des... ça fonctionne, enfin moi je sais d'où ça part Nice, voilà, maintenant c'est redevenu un club d'une vraie, c'est la cinquième ville de France, donc avec un très joli stade qui a été fait au moment de l'Euro. Voilà, donc très bien, moi je trouve que c'est effectivement bien. Après, comme disait la personne, c'est comme à Marseille. Ils ont quand même mis 200 millions d'euros, mais c'est pas évident. Il n'y a pas que l'argent. C'est ce que j'essaie d'expliquer indéfiniment. Il n'y a pas que l'argent.
Les supporters sont plus trop dupes des promesses.
Non, voilà.
Nouveaux propriétaires.
Mais même si les gens mettent l'argent, c'était le cas pour McCourt à Marseille, il n'y a pas que l'argent.
C'est
même parfois l'inverse. C'est-à-dire que quand il y en a trop, qu'on en met trop sur des joueurs sans vraiment justement avoir une politique, une planification, faire ça de façon professionnelle, ça peut être contre-productif. Donc voilà, il faut un management et de l'argent.
Bah, et tu le vois, en plus la locomotive a été lancée avec Claude Puel, Lucien Favre, les recrutements aussi de joueurs comme Atem Ben Arfa, comme ils ont tenté des coups, Balotelli, voilà.
C'est un management hyper intelligent qui a eu.
Ça a été hyper brillant.
Hyper intelligent. Voilà. Jean-Pierre Hébert a fait un management très intelligent, très bien fait. Il a à tout point de vue. Et donc c'est quelqu'un, je vous dis que je connais depuis très longtemps puisque il suit ça. Moi je le voyais de temps en temps. Il passait à Paris avant qu'il bascule et qu'il deviennent actionnaires. Donc c'est quelqu'un qui est très déterminé, qui connaît bien ce métier-là. Il a fait venir Claude, que moi j'ai fait venir à Lille, la formation. Donc, et puis il est sorti au bon moment. Et puis là maintenant, effectivement, à Nice, les fondamentaux sont là. Le stade, le centre de formation, l'aéroport, c'est une ville internationale, aéroport international. Donc pour un investisseur étranger, c'est cohérent. Moi, je vois pas de problème. Et Nice, effectivement, c'est une ville quand même... C'est une ville de foot, c'est une ville chaude. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a eu de très belles périodes de l'OGC Nice. Voilà, il y a un maire qui soutient. Donc oui, s'il y a un gros investisseur britannique qui a envie de se faire plaisir et qui amène de l'argent, c'est bien pour les joueurs, c'est bien pour les entraîneurs. Je pense qu'il viendra avec un management professionnel. Je pense qu'il fera pas l'erreur de prendre des gens qui sont des bons managers mais qui connaissent pas le management du foot. Julien Fournier, même si on a eu des différends, il connaît très bien le foot. Jean-Pierre Hébert connaît très bien ça. S'ils reviennent, pourquoi pas? Moi, je pense que ceux qui sont là sont pas mauvais non plus. Simplement, effectivement, il y a quand même des effets de seuil. Si à un moment donné, vous passez le budget à 200 millions d'euros, 300 millions d'euros et que vous pouvez avoir un effectif bien recruté, complémentaire et dans le championnat de France, vous faites la différence.
On est bien d'accord qu'avec des idées, on peut quand même construire des choses. Regardez Lille cette année, c'est-à-dire certes.
Oui, mais de l'argent.
On a frôlé la correctionnelle Lille l'année d'après, mais
d'accord.
C'est le sportif qui a fait.
Mais non, vous dites n'importe quoi. Lille, il y a eu 200 millions. Lille, il y a eu 200 millions d'euros
investis.
Alors, effectivement, c'est ce que je vous dis, il y a l'argent et la qualité managériale. À partir du moment où tu as les deux, tu as Lille, tu as Lyon, tu as ces clubs.
Luc, 200 millions, c'est-à-dire de rachat de dettes et de masse salariale.
Quand ils sont passés en DNCG l'année dernière, le fonds qui a prêté, à savoir Elliott, a bloqué 88 millions d'euros pour pouvoir continuer. Sur l'opération d'acquisition, elle n'a pas coûté énormément. D'accord. Après, il y a eu les achats de joueurs, il y a le financement de la perte d'exploitation, et il y a ce nouveau métier qui consiste effectivement à monter un groupe sportif de très haut niveau, donc de payer les salaires qui vont avec, d'être performant, et puis derrière d'avoir la possibilité de vendre les meilleurs, ce qui va se passer à Lille, Pépé. Derrière d'avoir des remplaçants, c'est un modèle qu'avait inventé Giroud à Auxerre en tout petit, que nous on a repris à Lille à l'époque. Ouais. Mais quand il y a les moyens de le faire au niveau des 200, 300 millions, c'est-à-dire que là, on va rentrer dans les projets de réforme, mais quand tu as des clubs qui ont des budgets, qui à un moment donné, parce qu'il y a des investisseurs, arrivent à des budgets de 200, 250 millions, 300 millions d'euros, et que sont bien, et qu'ils sont bien managés, voilà, c'est qu'ils ne se laissent pas déborder par ça. T'as une qualité d'équipe, une qualité de joueur, et derrière, des revenus additionnels qui arrivent. T'as des droits télé qui arrivent, t'as du sponsoring, t'as des recettes spectateurs. Sur le PSG, quand on regarde les comptes du PSG version Canal et Colony et les comptes Qatari, même si le club est mal managé, les recettes billetterie ont été multipliées par 5. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est mais c'est une autre taille. Et là, on rentre dans une autre sphère de club.
Après, ce que je veux dire, Luc, c'est que, ok, l'argent est investi, mais il peut être investi de très mauvaise manière.
Mal.
Ça repose sur le management et sur les hommes.
C'est ce que je viens de dire. Les deux ensemble.
Aujourd'hui, Luis Campos.
Les
on
deux.
On peut dire ce qu'on veut.
Mais je dis pas ce qu'on veut.
Pour aller chercher.
Il connaît parfaitement son métier.
Chelly, qui a été cherché en seconde division.
Il connaît parfaitement le métier.
Et tous les joueurs.
Il faut les deux.
Le petit.
C'est ce que je viens de te dire. Tu mets Luis Campos à Châteauroux, tout Luis Campos qu'il est, il fera pas monter Châteauroux.
Exactement. De toute façon, après.
À Châteauroux, il y a un type qui met 200 millions sur la table, Châteauroux va être troisième du championnat avec Luis Campos.
Tu peux dépenser aussi l'argent correctement.
Exactement.
Nous, on a la fainéantise aujourd'hui de se reposer beaucoup sur les droits télé, sur les rentrées éventuelles de marketing, de tout ça. Moi, je trouve qu'on a la fainéantise de bosser, de pas assez bosser sur la qualité. Du recrutement sur la
c'est un vrai boulot
tu vois le projet quand tu vois le projet marseillais franchement
il y a un vrai souci, parce qu'ils sont structurés quand même. Peux me permettre il y a un temps quand tu passes d'un club qui est dans une situation X avec un management comme l'a été Marseille le club était arrivé au bout il y a un nouvel actionnaire, c'est à ce moment-là où tu prends toutes les bonnes décisions dont tu vois les effets 2 ou 3 ans après. Et ça, c'est compliqué, parce qu'il y a une impatience sur les gros clubs de résultats à court terme, et même l'actionnaire, à un moment donné, il se prend au jeu, et tout le travail que fait un Luis Campos, de détection, de structuration, de planification du stock joueur, de faire en sorte aussi que l'équipe première soit bonne, parce qu'effectivement, si l'équipe première est pas bonne, t'as beau faire tout ça, t'as pas la vitrine pour faire jouer. Et puis, on est là pour jouer au foot. C'est-à-dire que les supporters, les spectateurs, ils veulent que l'équipe joue bien, gagne. C'est quand même le
donc
but.
Le choix de l'entraîneur.
C'est le but final. L'entraîneur, toute l'organisation. C'est devenu ultra pro. Les Anglais l'ont fait avant tout le monde. Il y a certains clubs qui l'ont fait ici. Lyon est un exemple de professionnalisme et de méthode de monter en charge à chaque étape avec une réflexion et tout ce que tu veux. C'est très compliqué, c'est concurrentiel. Mais je veux dire, tu peux pas faire sans les deux. Il faut les deux. Maintenant, c'est les deux.
Alors, Luc est venu il y a quelques semaines dans l'After, notamment avec un projet de
sauvetage, de réforme du championnat,
de notre championnat, en vue évidemment de la réforme de la Ligue des Champions en 2024. Hein. Alors, les choses ont évolué depuis, d'où l'intérêt d'avoir réinvité Luc ce soir. Alors, on est loin de Djibouti, hein, là, Julien.
Je suis attentivement.
Mais peut-être que tu as un ou deux Djiboutiens qui peuvent être concernés par tout ça.
Peut-être, j'espère.
On ne sait jamais. En tout cas, on était donc sur le projet 2024 avec 4 poules de 8, c'est ce que veut l'UEFA. La Fédération française de foot a répliqué sous l'impulsion de Noël Legret, qui a réuni tous les présidents de club. Il a dit attendez-nous, on a une proposition à faire. Attendez, nous on propose 6 groupes de 6. Donc on ramasse un peu tout ça, on veut 3 clubs français systématiques et puis comme ça bon bah ça amortira un peu le choc par rapport au format actuel. Donc la Fédé française est active et puis tout ça a plein de conséquences sur d'autres compétitions comme la Coupe de la Ligue, on va en parler. Vous avez suivi tous ces dossiers sans doute les gars là. En l'état actuel là, ça vous fait toujours aussi peur ou vous commencez à vous dire finalement moi 6 groupes de 6 ou 4 groupes de 8 ça m'irait bien, j'y trouverais mon compte. Je sais pas Jérôme, comment tu te positionnes aujourd'hui là sur tout ça?
Écoute, franchement, j'attends.
C'est compliqué.
J'attends de voir parce que on a dit beaucoup de choses. Depuis le début, t'as l'impression, lui qui va nous.
C'est-à-dire que pour les clubs qui sont arrivés à des tailles budgétaires, qui font que nous, quand on regarde la Ligue des Champions, ça y est, on sait quels sont les gros clubs européens, Real, Barça, et puis sur chaque territoire, maintenant il y a 2-3 en France, on sait que les 3-4 grosses métropoles, c'est Paris, Lyon, Marseille et Lille. Quelque part, c'est accepté. Il y a les stades qui vont avec. En Italie, c'est pareil. Juve, Milan et ainsi de suite. Donc, pour que tout ça tourne et fonctionne, effectivement, il y a eu ce projet de réforme poussé par ces clubs-là en disant, nous, notre modèle économique, il va tenir sur la durée si on est sûr d'avoir une présence régulière.
On en a déjà débattu, sauf que maintenant, le problème, c'est sauver notre football national.
Donc,
qui nous fait notre quotidien, bon vieux camp Dijon.
C'est ce que je disais, c'est un problème de vision politique. C'est de se dire, quel impact ça a sur les clubs auxquels on est attaché, qui font vivre les villes et ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai pensé cette réforme que j'avais en tête depuis pas mal de temps. Moi, je gère les clubs qui sautent. Et ils sautent quelque part quand même depuis plusieurs années, c'est ce que j'expliquais, parce que par le haut, ça va trop vite, ça va trop haut, les salaires montent trop vite, les montants des transferts, et comme ce n'est pas des ligues fermées, quand ça tombe,
Je reviens sur ta proposition, on en avait parlé l'autre fois. Toi, tu proposes donc en France
ligue fermée à 48 clubs, deux phases.
Avec des groupes géographiques.
Ouais, 4 fois 12. Et une première phase qui se termine en décembre. On prend les 4 premiers, on fait une deuxième phase et on recommence l'année suivante. Je propose aux clubs de ne plus nécessairement avoir l'obligation d'avoir des centres de formation. Pour les actionnaires de clubs, ils ont quelque part une franchise, c'est une certitude de participer à l'économie du spectacle durablement. Pour les joueurs, ils savent
que tu laisses des gens au bord de la route.
Alors, en réalité, j'ai regardé en profondeur. Quand on regarde bien l'histoire du championnat professionnel en France, il y a eu 70 clubs en tout depuis le début qui ont participé. Mmh. Et quand je t'ai envoyé les cartes, en réalité, tu vois qu'il y a 48 clubs, tu fais Ligue 1, Ligue 2 et une bonne partie du national. Mmh. Donc c'est déjà l'existant. Simplement, c'est une réorganisation des formats de compétition pour être d'abord pour les collectivités certaines que les stades qu'elles vont construire ou qu'elles ont déjà construits vont continuer à être utilisés. On a parlé plusieurs fois l'exemple du Mans et de tout ce qu'on veut.
Une révolution,
c'est inaudible. Moi, je veux dire, j'ai eu beaucoup de retours en off en me disant c'est top, c'est ce qu'il faut faire. Mais la façon de penser de sport collectif en Europe, c'est de dire dès que tu dis le mot ligue fermée. Ah ouais, c'est business. En vrai, le business, là, il se fait en dehors.
Là, ce que tu proposes, toi, c'est une ligue fermée à l'échelle de la France.
Pour protéger les clubs, en vrai. Oui, mais pour protéger les clubs. En vrai, c'est ce qu'ont fait les Américains. Ils ont protégé leurs clubs.
Il y a la conférence Est, conférence Ouest. Là, on aurait en Ligue 1, la Nord, Sud,
Ouest. Et puis, tu as une deuxième phase et tu repars l'année suivante. Ce qui permet de planifier des investissements sur la durée. Ce qui permet que quand t'as une mauvaise saison, t'es pas là, comme c'est le cas à Sochaux ou je sais pas où. Là, on se demande comment on va continuer l'année prochaine. Ce qui s'est passé à Strasbourg. Strasbourg, dépôt de bilan, ils sont partis en 5e division. Bastia, 5e division. Et tu repars pour un tour.
Ça vous plaît ça, les gars?
C'est la vision business.
C'est l'inverse.
Moi, j'ai eu le côté romanesque, tu sais, du celui qui.
Toi, tu veux pas que ça change. Tu veux t'es monté, t'es descendre.
Parce que au final, c'est la méritocratie. Je veux dire que c'est l'histoire, elle est belle parce que t'as un club qui surprend tout le monde.
C'est un groupe de joueurs qui surprend tout le monde. C'est un groupe de joueurs et un entraîneur qui surprend tout le monde.
Je suis pas d'accord avec ça.
Moi, je l'ai vu. Arles-Avignon, c'est un groupe de joueurs. Et un entraîneur qui surprend tout le monde. Oui, c'est Boulogne qui surprend.
Arles-Avignon, ils ont pas surpris longtemps.
Non, mais ils sont restés 4 ans. Ils ont dépensé 7 millions pour refaire ils ont reposé 7 millions pour refaire le stade d'Avignon. Il y a des mecs privés qui ont. Le club d'Arles, maintenant, il est mort. Mmh. Et ça avait pas de sens. Ça n'avait pas, et tout le monde le savait que ça n'avait pas de sens.
C'est vrai que ça n'a pas de sens d'un point de vue économique derrière parce qu'ils explosent. Mais par contre, c'est des belles histoires quand même. Donc non, c'est vrai que c'est moi, ça. Je suis partagé.
Moi, je suis plus sur
parce
l'émotion que sur le
vraiment. Très bien, mais l'émotion, elle coûte très très cher à tout le monde maintenant. Je peux vous dire.
Parce que non, c'est toi qui les joueurs.
Non, mais joueur, le jour où tu mettras toi de l'argent dans un club.
Non, ça arrivera.
Non, non. Et ben justement, c'est vachement significatif. Non, mais moi, je l'ai vu. Il y a eu certains joueurs qui se sont dit, mais pourquoi pas à un moment donné? Et que tu rentres dans la réalité de ce à quoi est confronté, ceux qui sont ou les actionnaires. Et là, tu te rends, mais c'est quoi ce délire? D'accord? Donc, tout le monde s'est emballé sur ce truc-là. La variable d'ajustement est devenue le joueur. On parlait de Monaco, c'est-à-dire que le transfert permet de masquer ses pertes d'exploitation. Et puis, à un moment donné, ça pète. Là, tu as, dans certaines villes en France, moi, je suis passé à Lens, c'était un désastre. Sochaux, ça va être un désastre ou pas. Bon, ce que je dis simplement, et je prête pas, moi, je veux dire, je m'en fous, en vrai. C'est, malheureusement, et c'est oui, très pervers, c'est de dire, à la limite, moi, j'ai vécu, pendant certains moments, de dossiers parce que les clubs s'effondraient. Donc. Et je disais, il vaut mieux traiter les causes que voilà.
Là, non, moi je te comprends.
Non mais là, c'est pas ça. C'est que le prochain coup qui est en train de se préparer, et après les gens vont dire ah oui, mais on savait pas. Mais ça va nécessairement faire péter le football français. Donc il y aura moins d'emplois, il y aura moins de clubs. Dans les clubs, ça fait vivre des gens qui s'occupent du marketing, de la billetterie, de la sécurité. Ça fait vivre une ville et une région. Quand un club saute, ben tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté, les fournisseurs, les médias, bien tout sûr, le monde. Ouais. Là, avec
mais
le schéma qui va vers
le devant d'une révolution, je veux dire, on va pas se mentir. Ça, c'est.
Mais c'est toujours c'est pareil.
Non, mais il y a aussi le fait de la part de risque. Moi, c'est ça qui me plaît. C'est quand tu commences quelque chose, tu dis, ah ouais, ok, je vais faire ça, et ben mes choix vont peut-être m'entraîner.
Mets un peu d'argent, et puis tu verras l'effet que ça fait.
Ben oui, mais après, c'est aussi aux gens de savoir que même si tu rates ta saison, et ben tu seras quand même là, et que ça sera la même chose pour toi, quoi qu'il en soit, et que les autres derrière, ils pourront jamais accéder.
Moi, je suis d'accord avec Ludo.
Moi,
je suis réac en termes de football.
Non, tu vois, j'aime le chocolat. Mais si j'en bouffais toute l'année, à un moment donné, tu vois, tu.
Non, mais oh, déjà, t'en bouffes bien.
T'apprécies plus, tu vois.
Ouais.
Donc, pareil pour le foie gras, tu vois, c'est
le reste. Si on prend ce raisonnement, pourquoi depuis des années, vous adorez voir le Real en permanence, Barcelone en permanence?
Non, mais c'est pas mon cas.
À la Ligue des Champions.
On fait chier avec la phase de poule.
Tu ne vois que ça.
À la fin, tu vois quoi?
Real, Barça, Liverpool. Tu vois toujours les mêmes. Ouais. En vrai. Donc, ce que vous ne voulez pas sur un schéma à 48 clubs qui protège les clubs, vous l'acceptez sur le, au niveau européen.
Non.
Dans les pays qui ont organisé leur championnat.
Attends. Non, moi, je te
réponds. Real, Barça, ils sont protégés.
Je te réponds juste, moi, ok.
Ils prenaient tous les droits télé parce qu'il y avait une vente des droits télé en Espagne.
Mais Jérôme, te laisse pas marcher.
Non, mais club par club. Ce qui fait que le Real et le Barça ont créé les conditions économiques de rester tout le temps premier, deuxième. Vous trouvez ça bien? Bon, ok. Alors on peut pas tout avoir.
Ils sont pas toujours premier, deuxième.
Quasiment.
Non,
l'Atlético était champion.
Oui. Même en France, ça changera pas, ce que je veux dire.
C'est
le PSG, Lyon, Marseille, par moments, année compliquée, mais c'est des clubs qui sont normalement toujours là. Moi, ce qui me dérange, c'est pas les équipes du haut, parce qu'on retrouvera toujours les mêmes. Et celles-là, elles ont la garantie de toute façon quand elles commencent un championnat, sauf cas exceptionnel, de dégringoler en Ligue 2. En général, elles dégringolent pas. Donc elles se maintiennent. Mais c'est les autres en fait. Moi, j'ai peur que ce système-là, donc ligue fermée, donc les clubs en effet une année en difficulté, et ben que ça fausse la suite du championnat parce qu'ils vont lâcher.
C'est ce que j'ai proposé, c'est-à-dire que ceux qui ne montent, ceux qui à la fin de la première phase ne sont pas dans les quatre de leur région. Tu fais Ligue Nord et Ligue Sud, tu refais un championnat avec une qualification pour la Ligue Europa. Donc ça tient parfaitement la route, simplement il faudrait le lire pour vous rendre compte. Mais tes 48 clubs français, parce que quand tu regardes le territoire français, tu as un territoire qui est homogène. Moi je dis simplement, et il faut que vous vous en rendiez compte, parce que ce qui se passe dans la coulisse, c'est que le président de la DNCG, il change tous les deux ans. Pourquoi? C'est parce que les clubs, on sait très bien qu'on fait des arrangements. Les clubs, on les laisse passer. À un moment donné, ils payent plus vraiment les fournisseurs. Et puis, à un moment donné, ça pète. Mais ça pète parce qu'il faut que le championnat continue. Donc, on ferme les yeux sur des structures qui ne sont pas assez solides pour assumer les coûts qu'elles sont obligées d'assumer. Les salaires ont monté et les recettes ne sont pas montées en proportion. Donc, ben je t'ai dit, c'est malheureusement c'est mon fonds de commerce. Luc, Bastia qui saute, Valenciennes qui saute.
Non, mais Luc,
c'est juste une question. Voilà, le Bastia, et puis après,
non Bastia, mais tu connais bien le dossier.
D'accord, mais si Bastia était resté en Ligue 1, je te garantis que ça aurait
continué. Oui.
Le trou de Bastia est le même que le trou de Valenciennes deux ans avant. Le trou de Lens était trois fois plus. C'est pas le problème de Bastia. Après, tu peux plus ou moins bien gérer, faire des magouilles et tout ce que tu veux, mais ce que je veux te dire, c'est que ces clubs-là, qui sont des clubs qui constituent et qui sont en plus pour les jeunes et les clubs environnement, là où tout le monde veut aller. Quand ils sautent, c'est un véritable désastre.
Juste poser une question et ensuite.
Ouais, monsieur,
est-ce que finalement ces clubs-là qui se retrouvent en difficulté, est-ce que c'est aussi parce qu'ils dépensent l'argent qu'ils n'ont pas et qu'ils ont une vision.
Oui, c'est vrai.
Ces clubs-là ne pourraient pas être raisonnables.
Très bien.
Et pouvoir, alors, comme un club comme Strasbourg, essayer de faire des choses et réussir une saison.
Marc Keller, qui est un ami, son inquiétude, c'est de dire moi maintenant pour rester compétitif,
je vais devoir doubler les salaires.
Je suis obligé de me mettre dans le rouge. Et comme je sais ce qu'on a vécu, je suis très attentif à ça. Parce que pour passer le cap de d'être justement stable en Ligue 1 à la taille de Strasbourg, tu sais, dès que tu es footballeur et que tu sais compter, tu sais que tu te mets dans le rouge.
Mais t'as deux, enfin, Angers, c'est pareil, tu vois. Mais Angers arrive à se renouveler.
Angers,
chaque
c'est
année.
Très simple. Angers, non mais, il y a plein de clubs qui fonctionnent et qui fonctionnent bien. Mais quand tu regardes, si t'as la curiosité, prends les comptes des NCG, tu verras que la quasi-totalité, sont en perte, hors vente de joueurs. Donc, ce qui permet ce qu'on disait, d'être profitable.
Il y a juste Angers, Reims ou des clubs.
Voilà, il y en a trop,
voilà.
10, 11,
ouais. Mais, tu peux pas éviter que sur une mauvaise saison, Angers tombe. Il n'y a rien qui leur garantit. L'année où ils tombent, ils vont avoir une année de réserve, puisqu'ils ont peut-être mis de l'argent de côté, ils vont peut-être tenir, essayer de remonter l'année suivante. Mais quand tu descends, et quand on va avoir les droits télé avec Mediapro dans un an, ça va être pire. Parce que quand tu seras monté en Ligue 1, tu auras touché des montants en droits télé qui t'auront permis, effectivement, de remonter ta masse salariale et d'être compétitif. Mais quand tu vas redescendre en Ligue 2, c'est pas moins 60%, c'est moins 85%. Donc, ce que je dis, mais je vous dis, en France, on est un pays riche, donc on trouve toujours des solutions. Ou bien on accepte qu'un club disparaisse. C'est-à-dire, part très bas, et puis on le revoit revenir à un moment donné. C'est le schéma dans lequel...
Schéma de Strasbourg, de Bastia à une époque.
Mais pendant la vie, c'est-à-dire, il y a des hauts, il y a des bas, ils sont en train de remonter, l'histoire elle est belle,
Strasbourg. Tu peux penser les choses différemment, tu peux dire, il faut que les clubs soient stables, et c'est les joueurs qui, par leur qualité, rentrent dans des clubs qui sont stables. Et ça crée de la richesse, en vrai.
Luc.
C'est-à-dire que quand tu fais ça, tu crées de la richesse.
On va conclure avec Arnaud, qui est au 32-16, nous écoute, là. Salut Arnaud!
Salut l'équipe.
Salut Arnaud.
Arnaud, t'adhères au projet Luc Daillon là ou t'adhères pas?
Non, j'adhère pas du tout parce que pour moi c'est là on essaie de copier le modèle américain comme il l'a bien expliqué, la NBA, la NFL. Après le problème qui va se poser, c'est que il n'y aura qu'un seul vainqueur avec ce modèle là. Donc je reprends le modèle américain. Eux ils essayent de le modifier. Ils essaient de le modifier parce qu'ils se rendent compte qu'avec un seul champion NBA, c'est assez compliqué de se faire une place. Là, actuellement, les Warriors, ils sont sur 5 finales NBA d'affilée. Donc, ils prennent une place directement à l'Ouest. Il n'y a aucune compétitivité. C'est très compliqué de se faire une place. Et une ligue fermée, ça empêcherait toutes les équipes françaises de gagner un titre et de se faire un palmarès.
Paris explose tout.
On a Strasbourg qui potentiellement peut gagner une coupe. Peut gagner une coupe.
Oui.
Alors qu'avec un seul titre.
Mais ils pourront toujours le faire.
J'ai compris ce que veut dire Arnaud. Parce que dans le nouveau modèle, la Coupe de la Ligue, pour l'oublier.
Elle saute.
Elle n'existe plus. La Coupe de France. Quid de la Coupe de France?
Oui, j'ai envoyé le truc. On peut trouver les façons pour que les clubs rentrent sur la Coupe de France, qui est une club qui est justement la compétition qui permet de mélanger les amateurs et les professionnels.
Non, mais ça, tu peux toujours
ça
ne
pose aucun problème. Façon. Ce que je veux te dire par rapport au système américain.
Parce que si t'as la Ligue des Champions tous les mercredis de l'année,
l'auditeur dit l'inverse de la réalité. En réalité, ce qui se passe, c'est que quand tu regardes aux États-Unis, parce que les Américains ont fait ça, parce que les clubs ont sauté. D'accord. Et à un moment donné, ils se sont dit, on veut préserver nos clubs, donc ils ont, avant tout le monde, compris qu'il fallait protéger les clubs contre la dérive des actionnaires qui mettaient plus d'argent que ce qu'ils gagnaient et qui sautaient. Donc, ils ont bâti ce système-là à l'échelle de, mais il y a eu énormément. Après, c'est le sportif qui fait la différence. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où tout le monde a à 20% près les mêmes budgets, chacun étant sûr de rester au championnat, à ce moment-là, c'est ceux qui font les équipes, c'est les joueurs, c'est les coachs qui font la différence. Et c'est vrai, comme ça peut arriver, que tu peux avoir, comme c'était le cas avec les Chicago Bulls, à un moment donné, tu as une équipe et des joueurs exceptionnels, et tant mieux. Et puis après, trois ans après, c'est moi, terminé. C'est entre-temps, il n'y a pas eu de faillite.
À côté de ça, Arnaud. Il y a aussi la logique de marché.
Parce évidemment. Évidemment.
On est dans un monde utopique. Parce que
Paris,
Paris, ça restera le gros marché en France. Là, on retrouve la même chose avec le football américain, où il y a quelques villes qui se démarquent avec des gros marchés.
Bien
qui
sûr.
Arrivent à attirer des joueurs. Comme par exemple.
On est en train de nous dire le football des campagnes dans ce nouveau
système. Mais c'est la réalité. C'est justement parce que c'est la réalité qu'il faut le réguler. Le bassin parisien, on devait en parler. C'est quand même un bassin où il y a 14 ou 15 millions d'habitants. Il n'y a qu'un club. Une fois c'était Canal, après Colonie, après
le Qatar. T'en as mis deux là dans les 48 ou pas?
Il en a eu trois.
Moi j'ai mis trois, moi j'ai mis Paris FC et Red Star. Quand tu regardes, moi j'avais travaillé à un moment donné sur le Grand Paris.
Ton projet en fait.
Mais évidemment. Non. À ce moment-là, tu donnes la stabilité au Red Star et au Paris FC. Et on sait très bien, nous qui sommes franciliens, que c'est les deux marques qui sont légitimes. Ils ont des bassins de population, Paris FC, voilà. Simplement, il faut construire un stade. Là, moi j'ai vu le projet de rénovation de Bauer, qui doit passer, fait par un promoteur. C'est vraiment top. Mais il faut de l'intelligence, de l'argent, mais de la stabilité. Si le Red Star descend en CFA2, t'as tout ce projet d'aménagement qui peut être mis en question. Or, il le faut pas.
Arnaud, merci à toi. Tiens, j'ai un petit cadeau. On va t'envoyer le DVD de Creed 2. La suite de la saga Rocky. Eh ouais, c'est cadeau, c'est comme ça.
Super.
Salut Arnaud, à bientôt.
Cadeau.
Salut.
Dans quelques instants, on va oublier les ligues fermées pour parler du foot africain. Avec Julien, il est là. Comment peut-on partir de Libourne Saint-Seurin en écoutant l'After et se retrouver sélectionné de Djibouti en écoutant toujours l'After? C'est ça qui est très fort. À tout de suite.
RMC, l'After Foot, Gilbert Bribois.
Ludovic Obraniak est là, Jérôme Rotten est là, Luc Daillon est là. Vous l'avez entendu longuement évoquer sa proposition, qui est intéressante. On pourrait y revenir dans les semaines qui viennent.
Toi, tu m'as parlé là en off, là je suis pour maintenant.
Ah non, t'es pour.
Ouais, ça m'a convaincu.
C'est comme tout, il faut travailler.
Convaincu.
Et Julien Maître donc avec nous. Alors, je refais un peu le parcours de Julien. Je l'ai dit. Hein,
si tu connais.
T'écoutes l'After depuis.
Ouais, ça fait moins de 10 ans. Hein.
Bon, ça t'a un peu inspiré dans ton boulot quand même, on peut le dire.
Pardon.
Ça t'a un peu inspiré au quotidien dans ton boulot.
Tu m'as dit qu'il fallait que je dise oui à cette question, donc oui.
Non, je voulais que tu sois sincère.
Non, c'est vrai, ouais, bien sûr.
Donc, t'as démarré à Libourne, t'as été formateur.
Ouais.
À Libourne. Mm-hmm. Et après, t'as eu des opportunités, t'es parti en Afrique. Et tu te retrouves là, sélectionneur de Djibouti. Alors, raconte comment c'est arrivé. Comment c'est possible?
Déjà, c'est par deux personnes que je salue au passage, Jérôme et Mohamed, en fait. Donc, c'est du réseau, hein, président de la fédération de Djibouti recherchait un entraîneur européen qui n'avait jamais eu en fait pour relancer un petit peu l'équipe nationale mais aussi le projet fédéral, hein, projet technique. Et en fait donc ces deux personnes là ont eu écho de ça, ils ont présenté mon CV et ça a tout de suite plu au président de la fédération qui m'a invité gracieusement une semaine, donc j'ai pu voir un peu ce que ça donnait parce que je connaissais rien.
Tu peux lui faire ton âge?
Là 37 ans.
Bon. Vous êtes le plus jeune sélectionneur du monde?
Je sais pas.
Attends, quel sélectionneur a moins de 37 ans? J'aimerais bien savoir.
Je sais pas. J'ai regardé en Afrique, sur toutes les équipes des éliminatoires Cannes, c'est moi le plus jeune, ouais. Mais bon, c'est pas un record qui m'intéresse, mais ouais, c'est anecdotique. Voilà, donc en fait, oui, c'est par du réseau.
T'as bossé un peu en Afrique, hein?
Oui, j'ai fait trois saisons au Congo-Brazzaville, où j'ai eu deux clubs, un club qui jouait le maintien au départ. Et ensuite l'année dernière, j'étais dans le club qui a fini champion, la Soto, et qui vient d'être encore champion là.
Donc tu faisais quoi là-bas? T'étais
entraîneur. L'année dernière à la Soto, j'avais un poste de manager général que j'aurais pas dû accepter. Je voulais voir un peu ce que ça a donné de prendre un peu de recul parce que depuis l'âge de 20 ans, j'entraînais toujours, donc j'avais toujours la tête dans le guidon et je voulais prendre un peu de recul quoi. Et en fait, bon, ça m'a pas correspondu, donc voilà.
Au niveau diplôme, t'en es où là?
Moi, j'ai l'UFAA, ce qui correspond au BEF en France. Et bah justement, par rapport à mon parcours qui est amateur et joueur non professionnel, par rapport aux critères d'admissibilité pour aller à ce qu'on appelle le DES maintenant, bah je rentrais pas vraiment dans les clous. Donc c'est pour ça aussi que je suis parti. Hein. Soit je restais dans un cadre un peu fonctionnaire du football en France, comme je dis, sans vouloir être trop péjoratif, mais en stagnant un petit peu, football jeune, amateur, semi-pro, et puis un jour une DH, et puis alléluia, on monte, et là tu peux accéder au DES. Bah en fait, comme j'avais goûté pendant 2 mois l'expérience au Congo. D'abord, j'y avais été juillet-août parce que bon, je connaissais rien de l'Afrique, donc à part tous les préjugés, dont beaucoup sont vrais, on m'avait invité. En fait, c'est le père d'un joueur que j'avais eu à Libourne et qui m'a recontacté. Et donc, il était propriétaire d'un club là-bas. Et donc, il m'a dit, bah, je t'invite au moins 2 mois. Et comme c'était l'été, vacances d'été, j'ai dit, bon, je risque rien. Et puis en fait, ben j'ai chopé un peu la fibre parce que quand tu es entraîneur et que tu vois des joueurs avec des étoiles dans les yeux, bon, ça te donne envie de voir un peu plus loin, quoi.
Mais dis-moi, donc là, t'as l'UFAA,
ouais,
ça.
Ah ouais.
Mais comment tu peux être sélectionneur avec
C'est suffisant l'UFAA, bien sûr.
D'accord.
Il y en a. Je citerai pas les noms, ils ont rien du tout. Hein.
D'accord, oui, non. Mais je suis étonné que.
Ou alors dans un.
Bon, c'est quoi le classement FIFA de Djibouti?
Ouais, alors on est très loin là. L'équipe a été arrêtée pendant presque 2 ans en fait. L'équipe a été arrêtée.
Donc là, tu repars sur une page blanche.
Tout à fait. C'est le challenge qui m'intéresse d'ailleurs.
Ouais, t'es juste derrière les Samoa là, franchement. Et
ah, ils ont trouvé.
197e ex aequo avec les Samoa.
Super, on est derrière Gibraltar, donc.
Ah non, mais Gibraltar, bon, c'est une petite nation, mais.
Ouais. Bah, on peut commenter, c'est ça qui est intéressant.
Voilà. Donc ça veut dire que là.
Et comment tu, ouais, parce que ton rôle sélectionneur, donc nous on voit ça ici en Europe, on voit comment ça fonctionne. Il y a combien d'équipes les championnats là-bas? C'est.
Bon, en fait c'est assez bien structuré pour un petit pays parce que ça fait à peu près 800 000 habitants. C'est tout petit en fait. C'est grand comme l'Aquitaine, hein, Djibouti. Et donc c'est après si tu regardes c'est coincé à côté de l'Éthiopie, de la Somalie qui sont quand même des plus grands pays. En fait là-bas c'est le foot est très bien structuré, c'est pour ça que j'y suis allé. Il y a 3 divisions de seniors. Ouais. Donc t'as une D1 à 10 clubs, ce qui est très bien parce que si tu fais trop de clubs après c'est trop disparate le championnat, donc là c'est plutôt homogène. Il y a une 2e division et il y a une 3e division qui est consacrée aux U20. Donc ça, j'ai trouvé que l'idée était pas mal. Ça te permet de promouvoir un petit peu.
Pardon.
Ensuite, il y a un championnat de U17 qui vient d'être commencé. Il y a un championnat de U15. Il y a aussi un championnat de futsal. Et il y a un championnat de beach soccer. Donc j'ai trouvé.
Sélectionneur de tout ça.
Non, je suis pas sélectionneur de tout ça.
Et il peut sélectionner des joueurs au milieu de tout ça, non? Tu peux prendre qui t'as envie, en vrai.
Oui, je peux prendre qui j'ai envie. Ouais. Bon, après, j'ai trouvé. En fait, j'ai fait un premier stage là avec une présélection de 45 joueurs. Ils sont tous au pays. Hein, voilà. Donc là, le gros de mon travail, ça va être d'essayer de trouver des binationaux. Donc d'ailleurs, si par l'intermédiaire de cette émission, il y en a qui m'écoutent, eh ben.
On lance un appel. S'il y a des Djiboutiens ou des joueurs d'origine djiboutienne parce que qui jouent en France à un bon niveau.
Bien sûr.
Il s'appelle Julien Met. Il est sélectionneur. Ouais, donc.
Aujourd'hui, t'en as pas. Il y a que des joueurs.
Alors j'en ai. En fait, il y en a un. Je suis allé le voir. Il est en Belgique. Et il joue en Division 3, en banlieue de Liège. D'accord. Il a été formé au Standard de Liège. Il est passé ensuite par Genk, quel club champion de Belgique qui rafle tous les titres de jeunes là-bas.
Donc il joue en D3 belge.
Ouais.
Et
ouais.
Alors,
il a 20 ans.
Juste pour savoir à peu près, ouais,
Julien,
pour essayer de.
S'il y a un petit billet, Jérôme, il rechausse les crampons.
Non, mais ça va pas. Pas
son grand-père est Djibouti.
Je vais pas mettre l'audience en péril. Je peux pas partir d'ici. Donc,
c'est vrai, t'as raison.
Ouais. Mais
il y a 800 000 habitants.
À peu près, ouais.
Ouais, c'est un peu comme le Qatar, quoi.
Ouais.
Il peut faire pareil.
Il y a moins d'habitants qu'en Islande.
Il y a peut-être moins de.
Vous en perdez ma question, là, ou non?
Non, si, c'est intéressant. Vas-y, pardon. Non, je suis en train de me dire qu'on pouvait.
Non. Donc ce joueur qui joue en Belgique en 3e division, il a quel niveau? Est-ce qu'il est vraiment en avance par rapport aux autres joueurs que tu as sélectionnés?
Ouais.
Ou c'est à peu près le même niveau? C'est pour à peu près juger le niveau de
la sélection. De par son parcours de formation, il est tactiquement bien en avance. Donc par rapport à son cursus et les connaissances qu'il a, c'est sûr qu'il va nous apporter. Voilà. Après c'est un jeune, donc il peut pas arriver en étant capitaine. Et
non. Mais c'est surtout par rapport au niveau.
Parce que évidemment, ça va être un leader technique.
Tu peux nous parler un peu de l'ampleur de la tâche quand t'arrives? Qu'est-ce que tu constates?
Je constate parce que bon, j'ai été invité une semaine avant avec la personne qui m'a fait venir là-bas. Donc j'ai vu des matchs, j'ai vu les installations. Donc déjà, je constate, pour avoir connu le Congo, et puis avec le Congo, j'ai aussi voyagé dans d'autres pays, qu'en termes d'installation et d'infrastructure, par rapport au pays, c'est très bien. Donc il y a de quoi, il y a assez de plages horaires pour faire beaucoup d'entraînement.
T'as un stade national?
Oui, oui, il y a quatre terrains synthétiques dans la ville de Djibouti. Il y a des villes dans les autres régions qui sont aussi dotées, équipées. Donc déjà tu peux développer un football de jeu au sol déjà, c'est tout bête, mais tu sais en Afrique, toi tu connais un peu, hein, c'est pas évident partout.
Synthétique vaut mieux.
Ouais. Et ouais, en plus dans cette région où il pleut jamais, donc t'es obligé. Hein. Mais déjà tu peux développer. Ils ont une académie qui se construit, donc une espèce de Clairefontaine djiboutien, donc qui sera l'école nationale des jeunes de U15 à U20. Donc ça déjà c'est des perspectives qui sont intéressantes.
Ils pourront donc intégrer tout de suite la troisième division.
Voilà. Voilà.
Et la sélection surtout parce que. Voilà. Je pense qu'à 18, 19 ans, s'ils sont bien formés, je pense que tu les appeler direct.
Tu as un droit de regard là-dessus ou pas?
Oui, oui, sur, entre guillemets, surtout. Moi, ils m'ont fait venir.
Patron,
je suis le premier,
là-bas.
Je suis le premier occidental. Donc, c'était l'idée. En gros, ils se sont dit, on a essayé ça. Bon, là, on va tenter.
Non, on sait aussi que, les entraîneurs européens qui arrivent là-bas, au début, c'est tout rose. Et puis, au niveau des marges de manœuvre, c'est un peu moins.
Là, tu veux qu'ils attendent le résultat.
Tu sais pas, hein.
Bon, on verra parce que déjà on n'a pas encore fait les premiers matchs. Là, on va faire deux matchs amicaux en juin à Abu Dhabi. Donc on va voir et les premiers matchs officiels c'est septembre ou octobre, c'est premier tour de qualification pour la Coupe du Monde.
Non mais tu te rends pas compte, c'est pas qu'au niveau sportif, c'est tu sais que le sport, la politique, ça véhicule plein de messages, il faut faire honneur, fierté à ton pays si tu perds contre un voisin. Et comment que c'est ça dépasse le cadre juste sportif en Afrique.
Là ils repartent de.
Oui mais justement ça, je rejoins un peu Ludo, c'est vrai que l'équipe elle avait été arrêtée parce qu'en fait ils prenaient de très lourdes défaites quoi. Moi, quand je suis arrivé, on m'a pas donné d'objectif de qualif ou quoi. On m'a juste dit,
évite de prendre 12-0.
On veut plus être ridicule, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que ça part de loin.
On va regarder les premiers matchs.
Mais il y a un exemple, c'est les Comores.
S'il y a 12-0, t'es mal barré.
Il y a une diaspora comorienne très importante, notamment à Marseille. Parce que moitié de l'équipe des Comores, c'est les Comoriens de Marseille.
C'est la sélection nationale de Marseille.
Le sélectionneur des Comores, qui est marseillais, il est parti de zéro. Ils ont même créé leur propre équipementier, parce qu'ils arrivaient pas à trouver un équipementier pour les aider. Et les gars, ils ont failli se qualifier à la CAN. Il y a toujours un litige d'ailleurs en cours, mais ils partaient de zéro, un peu comme toi. Hein.
Oui, après t'en as d'autres. T'as le Cap Vert sur la dernière CAN, qui est plus petit et qui a moins d'habitants que Djibouti. Et puis t'as des pays qui montent. Bon, là t'as Madagascar, mais ils bénéficient effectivement de beaucoup de binationaux, ce qui est pas notre cas. Et tu as la Mauritanie, qui est, je dirais, notre meilleur exemple, parce que c'est une fédération très saine avec un projet où pareil, ils partent de très loin. Et moi je connais des personnes qui ont travaillé là-bas comme entraîneur et j'ai des bons échos et
sur la page de la FIFA sur Djibouti, il y a Infantino qui est venu, dis donc.
Oui, c'est le premier pays où il est venu après son élection. Le mois dernier,
Qatar, Djibouti.
Mois dernier, on a eu Ahmad, le président de la CAF.
Dernier résultat, les gars, excusez-moi, Djibouti, Swaziland, 6-0 pour le Swaziland.
Non.
Pas sûr, non. Je crois que le dernier match officiel, c'était contre l'Éthiopie, une défaite 4-1.
Ah bon, écoute.
Swaziland, c'est une belle équipe,
être arrêté.
Swaziland, ils avaient battu l'équipe de Louis.
Ils avaient battu la Guinée de Louis Fernandez.
Bon, après, est-ce que c'est une référence ou pas?
C'était le premier match de Louis sélection dans la Guinée, le pauvre.
Il a pas dansé.
Un piège. Donc, alors, on va faire un truc.
Ouais.
Moi, je te propose que tu donnes ton adresse mail. On sait jamais s'il y a des Djiboutiens ou des gens qui connaissent des Djiboutiens de bon niveau qui jouent.
Bien sûr.
Donc, vas-y, on t'écoute. Notez bien si vous avez du Djiboutien dans votre entourage.
L'adresse. Alors, c'est julien.mette 33
33
département d'origine
@gmail.com. Voilà, et vous avez grâce à ça peut-être une chance de devenir international djiboutien.
Ce serait une belle aventure
par l'intermédiaire de l'After.
Tu vis là-bas?
Je vis là-bas, oui, parce que entre guillemets, ils profitent de ma présence pour.
T'es pas vraiment sélectionneur, t'es entraîneur en fait. Si tu travailles au quotidien.
Oui, parce que je m'occupe aussi des U17. Hein, je l'ai pas dit, mais ils ont une génération là qu'ils ont pris en U15.
Directeur sportif.
Ouais. Et ils veulent l'amener quand ils auront à peu près 20-21 ans. Ils veulent faire grandir cette génération et l'accompagner sur un projet de 5 ans. En fait, c'est ce que le Qatar a fait avec la génération qui vient de gagner la Coupe d'Asie là. Mmh. comme nous on a un partenariat avec le Qatar, c'est vrai que ça les a inspirés. Donc je m'occupe aussi de ces U17 qui s'entraînent quatre fois par semaine.
Moi je vais te dire l'équipe A. Mmh. On va suivre Djibouti de très près.
Ouais, c'est ce que je crains d'ailleurs.
On part avec toi. On est le 197e.
Ouais.
Enfin, j'ai bien dit, on va avec toi 197.
Et on vise 194.
On vise quoi, les gars?
194.
Ouais, Ludo, il est...
Non, en plus.
Non, mais il exagère pas.
Non, mais Ludo, il a joué à Bordeaux, alors 197.
Salopard.
Moi, j'ai lancé.
On vise entre 100 et 120.
Est-ce que Julien Hamet arrivera à mettre Djibouti 200e nation au monde?
200e.
Mais les 197
déjà. Ben oui, ben c'est pour ça.
Ah, tu
ça sera pire à
descendre.
Non, ah ouais, c'est dur. Fou,
hein. Non, je plaisante.
Il y a rien après.
Bon, non. En tout cas, Julien,
c'est pas spécifique, Jérôme.
Ah, bah non,
avec deux, on peut vous prendre.
Mais avec plaisir,
gaucher,
ça fait moi je vais venir.
Ludo a beaucoup de temps, on peut y aller.
Bah tu nous diras si l'appel de ce soir.
Moi, j'attendrai de voir.
Julien.met33@gmail.com.
Voilà.
Tu sais, je suis la force montante, donc je vais avoir moins de temps, tu vois.
Dans quelques instants, Liverpool. A priori, il n'y a pas de joueur de Djibouti à Liverpool, mais on doit suivre Liverpool à Djibouti, c'est sûr. Équipe type, équipe pipe de l'histoire de Liverpool, c'est tout de suite dans l'after.
L'after foot, Gilbert Bribois.
Ludovic Obraniak, Jérôme Bretel, Luc Dayan, Julien Metz, sélectionneur des Fidji avec nous. Alors avant de parler de Liverpool, j'ai un message à tous les Nantais. Je le sais, vous savez des fois l'after, j'ai dit Fidji, pardon, c'est Djibouti, c'est pas tout à fait la même zone.
Fidji, n'importe
quoi. Okay, c'est plutôt
le rugby.
À cause du J.
Tu vas y aller
bien. C'est bien Djibouti.
C'est le J aussi.
Ouais. Message à tous les Nantais. Excuse officielle de l'after. On devait parler de Nantes et de ce nouveau logo. Franchement, moi, j'adhère pas, c'est moche. On change pas un logo de club. Je suis désolé, un blason, ça reste.
On peut changer, on peut le faire évoluer.
On change pas. Je suis désolé. Dans
on
le
peut.
Football.
Arrête.
Je me demande pourquoi tu m'invites, toi. Voilà.
Mais c'est tous les clubs pareils. Arrête.
Faut
rien changer à rien, hein, Gilbert.
Je fais la promesse solennelle. Je fais la promesse solennelle ce soir à tous les Nantais que mardi prochain, Jérôme sera là.
Oui, mais
spécial Nantes.
Surtout, Luc ne sera pas là, donc il y aura un temps de parole.
Ah oui,
dossier Canary mardi prochain, on parlera des Kita.
Moi aussi, j'avais envie de parler de Nantes, du coup.
Le promoteur qui a travaillé sur le stade de Nantes, là, il est top. J'ai rencontré, il bosse sur le stade du Red Star. Donc, il y a quand même des gens de très grande qualité. Et j'ai été président à Nantes, quand même. Donc, c'est un club.
Je vous le dis, Luc Dayan, c'est l'Avengers du foot français.
Voilà, absolument.
Ah, t'as aussi été président.
Bah oui, attends, j'ai fait la vente pour Dassault, tout ça.
Julien Laurent, c'est là, salut Julien.
En quoi, 75?
Non, 2007.
Julien, bonsoir.
2007.
Salut Gilbert, salut à tous.
Ah, équipe type, équipe pipe, vous savez, c'est notre
salut
grand
Julien.
Jeu de l'année.
Ne te rate pas, parce que Fred tira derrière.
Le dia d'ailleurs, t'as vu ces derniers jours. Bon, Julien, on voulait faire Liverpool avec toi, on passe au grand club européen, on a fait le Real hier brillamment avec Fred.
Brillamment, il a pas mis Raoul, excuse-moi.
Oui, mais il a expliqué pourquoi.
Ouais.
Bon, on s'en fout. Là, on parle de Liverpool.
Ah oui, donc c'est
équipe
pas brillant.
Équipe type, équipe pipe de Liverpool. Toi aussi, t'as bossé. Donc, on y va. On découvre sur RMC Sport News l'équipe type de l'histoire de Liverpool que tu peux nous décrire pour RMC. Julien, on t'écoute.
Alors, on commence par le gardien, bien sûr, de cette équipe type, Ray Clements.
Ouais, non, déjà...
5 championnats d'Angleterre, 3 coupes des clubs champions à l'époque.
Donc, tu mets pas gros
dollars. Alors tu aurais pu mettre Groblard, même je pense que Pepe Reina était peut-être même plus talentueux que Ray Clements, mais ce que Clements a représenté, je crois sur les 600 matchs un peu plus qu'il a joué pour Liverpool, il y en a la moitié où il a pas concédé un seul but. C'était le grand gardien de but anglais avec Shilton et avec Gordon Banks.
La défense.
À droite, Phil Neal, qui est le seul joueur de Liverpool à avoir remporté les 4 Coupe des clubs champions, donc de l'époque fin des années 70, début des années 80. Mm-hmm. Un défenseur, un arrière-droit discipliné, agressif, bon avec le ballon. Il a joué 417 matchs de suite pour le club à un moment.
Ah oui.
Jamais blessé, le gars sur qui tu pouvais compter à tous les moments. À gauche, Alan Kennedy, l'homme des finales. But vainqueur dans la finale de la Coupe de la Coupe des clubs champions en 80 contre le Real Madrid 1-0. Mm-hmm. C'est lui qui marque le tir au but vainqueur contre la Roma 3 ans plus tard, toujours en finale aussi.
Validé.
Et dans l'axe, j'ai choisi Jamie Carragher parce que même si au départ il supportait Everton étant gamin, il a quand même fait toute sa carrière à Liverpool. C'était l'âme de cette équipe, c'était l'âme de ce club. Et à côté de lui, Alan Hansen, qui était la classe incarnée, l'élégance, un défenseur central, bon avec le ballon mais bon dans les airs, bon tacleur, qui avait vraiment tout. Donc voilà la défense à 4.
Au milieu,
Graham Souness, qui pour moi était avant-gardiste
c'est moi qui l'ai vendu,
chez les milieux de terrain. Il était capable de tout faire, il était bon avec le ballon, il était technique, mais c'était un guerrier, il était capable aussi de te mettre des tacles à la gorge, etc. C'était t'as besoin d'un mec comme ça dans ton équipe.
Ensuite,
vas-y.
Ensuite, Steven Gerrard, bien sûr, monsieur Liverpool, évidemment. qu'on présente plus évidemment.
Ouais.
Et dans ce il milieu a à trois,
mais bon, c'est pas grave.
Bah oui, et puis il y a Cuisade, bien sûr, qui pour toujours restera là, mais il y a aussi la victoire à Istanbul.
Et ensuite, au milieu, le dernier,
John Barnes, que j'ai mis là pour ce qu'il a fait pour le club, bien sûr, même s'il était un petit peu après la génération dorée, celle qui a tout gagné, notamment parce que Liverpool à ce moment-là était plus en Coupe d'Europe comme les autres clubs anglais, mais aussi parce pour ce qu'il a représenté par rapport au racisme dans le football, par rapport aux joueurs noirs dans le football anglais, c'est quelqu'un qui a eu un rôle très très important. Et puis le King Kenny, Kenny Dalglish en numéro 10 derrière les deux attaquants de pointe, parce que Dalglish c'est sûrement le plus grand joueur de l'histoire. C'est pour tout ce qu'il a représenté, tout ce qu'il a gagné, mais aussi encore une fois la classe, l'élégance, les buts et puis le fameux numéro 7 quoi.
Et devant, donc il t'en reste deux.
Devant, il m'en reste deux. Ian Rush, le plus grand buteur de l'histoire du club, 346 buts pour le Gallois, dont 25 contre Everton dans le derby. Personne n'a marqué autant de buts que lui, ou plus de buts que lui dans les derbies de la Mersey. Et puis Luis Suarez, peut-être pas forcément, bah déjà parce qu'il a, à part gagner la Coupe de la Ligue, il a rien gagné d'autre, mais parce que cette saison en 2013-2014, où quasiment à lui tout seul, il porte cette équipe, il marque 31 buts en 33 matchs après avoir été suspendu les 5 premiers matchs de la saison parce qu'il avait mordu Ivanovic. Cette saison-là, c'est peut-être l'une des plus grandes saisons individuelles de l'histoire de la Première Ligue, et pour tout ce qu'il a donné à ce club et comment les supporters l'ont vénéré, je pense qu'il méritait sa place dans cette équipe type.
Donc attention, Luc Dayan, non, qui est pas content.
Non, je suis pas content, mais Kevin Keegan, vous le mettez pas, quoi.
Ben, j'ai pas trouvé de place, même si il est parti tôt à Hambourg quand même, hein. Il part assez tôt à Hambourg, il part en 78 à Hambourg. Et c'est vrai que dans la grande équipe, celle qui a régné sur l'Europe, il était pas vraiment là.
Et ben, pour moi, c'est l'incarnation de Liverpool, quoi. Je veux dire, mais pour ma génération, après, c'est vrai qu'il y a des problèmes de génération. Mais c'est incroyable.
Kylian n'est pas le choix de Julien.
Non, mais après c'est exactement tout ce qu'il dit. Julien est un gros travail, donc bravo, ouais. Bravo d'avoir bossé comme ça, de nous avoir vendu des joueurs de 70 que tu n'as pas vu jouer.
C'est le concept.
Donc c'est pour ça que je mets en avant le fait qu'il a bien bossé. Vraiment, c'est exactement le concept. Les histoires sur John Barnes, c'est ce qu'on aime en fait dans les équipes types, que certains ne comprennent pas toujours. Le seul regret, moi, que j'ai, c'est de... Alors, encore une fois, la saison, elle est pas finie. Il y a la Ligue des Champions aujourd'hui, mais c'est de pas avoir récompensé cette génération-là d'aujourd'hui, parce qu'elle est fantastique quand même.
Qui t'aurait mis ?
Elle est fantastique. J'aurais, franchement,
Salah, c'est pas possible.
J'aurais mis.
Pourquoi pas ?
Ben, s'il met un triplé en finale.
Non, mais j'aurais mis.
Il est mieux. Enfin, pour moi, il a plus de.
Je pense que Salah a bien marqué
Suarez,
l'histoire du club à la place, bah, comme Suarez, mais Salah l'année dernière et puis même cette année à confirmation. Et derrière, peut-être que j'aurais mis une place à Van Dijk, qui est quand même incroyable.
L'équipe PIP sera à découvrir sur les réseaux sociaux de l'After, bien sûr. Julien l'a fait aussi. Je précise deux choses. Allez aussi sur le compte Twitter de l'After, on vous offre les nouveaux maillots de l'OL. C'est cadeau, hein, comme ça tombe 23h57. Et puis, Luc, j'ai beaucoup de demandes d'After qui disent on veut voir le projet de Luc.
Ouais, avec plaisir.
On le publie.
En plus, il est, je pense que même sur Internet, parce que j'avais fait un papier sur News Tank. Qui était après en accès libre. Donc, moi, je peux t'envoyer le lien. Okay. Je t'ai même envoyé les cartes cet après-midi. J'ai vraiment développé les choses.
Dans les jours qui viennent, on le met en ligne.
Il n'y a aucun souci. Au contraire. Plus de gens partagent, mieux c'est.
Ludo, Jérôme, merci.
Bravo, Ludo.
Julien.
À dans un mois.
Gilbert. Djibouti forever. Objectif 100e place classement FIFA. Et l'After revient demain après la Ligue 1, bien sûr. Bonne nuit à tous.
RMC. L'After Foot.